Fêtes et culture juive avec Raïm Slonim sur le 97.1.
Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes dans un monde où il est rempli de paradoxes. Et pourtant, ce n'est pas une erreur, ce n'est pas un problème, c'est prévu. Notre but, ce n'est pas détruire ou bien ignorer ou bien quelque part ne pas considérer une des parties. Et le but, le contraire, que malgré les paradoxes, qu'on trouve quelque chose, ce qui lie tout, et que le monde vit avec ses paradoxes, avec ses différences. Ça, c'est un sujet très essentiel dans le judaïsme, en sachant que Dieu il a créé un monde différent, avec des buts différents, avec des gens différents. Et l'idée, c'est qu'on trouve, si on peut dire, la ligne qui lie tout, et à partir de là, les différences restent, et pourtant, ils sont liés. On peut dire que l'homme, le corps humain, est rempli de différences et de paradoxes, et pourtant, c'est un homme de bonne santé, c'est quelqu'un qui a quelque part un équilibre entre les différences et il vit bien. S'il n'y a pas d'équilibre, il y a une différence entre une partie du corps et l'autre, c'est la maladie. Et ça, c'est la vision très générale de notre monde. Il y a des paradoxes. On ne peut pas effacer les paradoxes. Il ne faut pas penser qu'il faut effacer les paradoxes. Alors là aussi, ça dépend. Il y a certaines choses que bien sûr qu'il faut effacer. Mais l'idée générale de notre monde vu par la Torah, c'est qu'il y a des paradoxes. Et pourtant, il faut voir comment les différences, malgré les différences, ou bien plutôt grâce aux différences, on arrive à quelque chose de complet. Et donc, cette idée est vraie toujours, mais cette idée est vraie surtout puisqu'on essaie de développer la paracha de la semaine. Donc, dans notre paracha de la semaine, cette idée est répétée plusieurs fois. Puisqu'on est dans une paracha où on va parler des dons de la Torah. Donc, jusque là, on a vu la création, le patriarche, l'Égypte et la sortie de l'Égypte. Et enfin, les peuples juifs, après la sortie de l'Égypte, ils se trouvent devant le mont Sinaï, ils vont recevoir la Torah. Et la Torah nous raconte certains éléments dans notre paracha qui montrent cette idée. Qu'est-ce que c'est finalement la Torah? La Torah, c'est une idée de... En fait, si on peut considérer comme ça, si on peut résumer parmi l'idée de la Torah, c'est que dans un monde paradoxal, on trouve l'équilibre. Alors, il y a, comme on a dit, il y a plusieurs notions dans cette idée. On les trouve souvent, cette idée. Mais on va commencer par une des idées. On sait que la Torah a été donnée par Dieu. Et pourtant, la Torah elle-même, quand vous lisez la Torah elle-même, c'est possible que vous allez comprendre. Vous n'allez pas comprendre ou même comprendre le contraire de ce que la Torah nous dit. Donc, pour comprendre la Torah, il y a des règles. Il y a, on le dit tous les matins, 13 règles. On le dit avant la prière. Il y a ces fameux Rabbi Ishmael Omer, Rabbi Ishmael qui résumait les règles de la Torah par 13. Et il y a des différentes règles. Comment on comprend la Torah? Encore une fois, vous allez comprendre la Torah, vous allez lire la Torah et parfois... Et lorsque vous lisez les commentaires, vous voyez que vous avez compris, vous n'avez rien compris, ou bien vous avez compris le contraire. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas eu les règles de la Torah. Comment on comprend la Torah? Et ça existe aussi dans notre monde. Il y a parfois des gens qui font des choses, ils pensent qu'ils comprennent d'une manière, mais ils n'ont pas lu les règles. S'ils vont lire les règles, alors à ce moment-là, ils vont comprendre carrément différemment les choses. Et ils vont comprendre bien les choses. Donc, dans la Torah aussi, il y a parfois la Torah nous dit quelque chose et on ne comprend pas. Alors, parmi les règles, et c'est d'ailleurs c'est la dernière de ces 13 règles, très intéressantes, les règles sont à plus forte raison. Par exemple, Il y a parfois où la Torah nous dit quelque chose, mais à partir de là, il faut déduire que si ça c'est vrai, donc c'est sûr qu'à plus forte raison, donc des choses que la Torah ne nous dit pas clairement, mais il faut suivre les règles de plus forte raison, ou bien d'autres règles comme ça, que comment on comprend la Torah. Et la dernière de ces règles, c'est, il est marqué comme ça, que parfois dans la Torah, il y a deux psukim, deux versets, qui sont opposés. Ça veut dire que, d'une part, vous lisez une chose, un autre, dans un autre endroit, vous comprenez le contraire. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ces règles? Alors, c'est comme ça ou c'est le contraire? À ce moment-là, il y a un troisième pasouk qui, grâce à ces pasouks, grâce à ces versets, vous comprenez qu'en fait, c'est vrai que c'est un paradoxe, mais vous comprenez qu'il y a un lien entre les paradoxes. Alors, ça veut dire que vous comprenez, donc, grâce au troisième, ce que voulait dire le premier et ce que voulait dire le deuxième. Ça veut dire que grâce, parfois, et d'ailleurs ça fonctionne comme ça dans l'étude, toute étude, pour comprendre bien la chose, il faut vous montrer l'opposé. Et à ce moment-là, vous voyez beaucoup plus large. Et donc, parfois, la Torah, si la Torah, elle va nous dire directement les choses comme il est, alors on ne va pas comprendre. Je n'ai pas un exemple facile, mais si la Torah va nous dire les règles comme ça, les règles comme ça. Donc, alors, on ne va pas comprendre comment l'idée est large. Mais quand la Torah nous dit, d'une part, une chose, d'une autre part, une autre chose, et ensuite, il y a quelque chose qui lie les deux, à ce moment-là, c'est beaucoup plus large. Ça va dire, on va dire comme ça, on va dire une idée que, d'une part, on peut comprendre que cette idée, on va dire, est spirituelle. Et d'une autre part, on va comprendre que cette idée est plutôt matérielle. Et d'une autre part, on va dire quelque chose qui lie les matériels et spirituels. Donc, alors, à ce moment-là, ce message est beaucoup plus large. J'espère que c'est un petit peu clair. Donc, alors, parfois, pour comprendre bien la chose, il faut voir l'opposé. Et d'ailleurs, c'est comme ça qu'on étudie, il y a la méthode qu'on étudie dans le monde juif, mais c'est vrai partout, c'est que ça s'appelle Chavruta. Chavruta, ça veut dire qu'on étudie ensemble, deux personnes ensemble, ou plus, mais en tout cas deux personnes ensemble. Et si on n'étudie pas comme ça, alors on risque bien de ne pas comprendre. Il y a une histoire talmudique qu'il y avait un sage qui s'appelait Rabbi Yochanan, que lui était un grand sage parmi les sages. Et ensuite, il avait un élève que finalement il est devenu, ça veut dire que c'était quelqu'un qui s'appelait Rish Lakish, et il est devenu de sa famille, il s'est marié avec une fille de sa famille. Donc au début, Rish Lakish était carrément un brigand, quelqu'un qui n'était pas du tout dans l'esprit de la Torah. Et Rabbi Yochanan arrivait à l'amener vers la Torah. Et finalement, il est devenu aussi un grand sage. Donc ils ont étudié ensemble. Et Rabbi Rish Lakish, il avait peut-être aussi grâce au fait qu'il était autrefois dans un autre monde, opposé au judaïsme, donc il avait cet esprit critique. Et tout ce que disait Rabbi Yochanan, il a toujours dit le contraire. En fait, toujours, c'est exagéré un peu, mais souvent il a dit le contraire. Et Rabbi Yochanan aimait bien cette vision parce que lorsqu'on dit le contraire, on peut arriver à une autre profondeur. Donc, à un moment donné, Rish Lakish est décédé. Rabbi Yochanan est resté sans partenaire de l'étude. Il était très malheureux. Alors les sages, ils ont organisé que Rabbi Yochanan aura un autre sage qui va étudier avec lui. Alors tout ce que Rabbi Yochanan disait, puisqu'il était très intelligent, c'était très logique ce qu'il disait, ses nouveaux partenaires disaient toujours, j'ai une preuve pour ce que vous dites. Il a donné des preuves talmudiques, des références, que ce que Rabbi Yochanan disait est bon. Rabbi Yochanan était très déçu, il a dit, mais j'ai pas besoin de preuves, je sais ce que je dis, c'est bon. J'ai besoin que quelqu'un me dise le contraire, et à ce moment-là, on va arriver à une profondeur, mais si on ne dit pas le contraire, alors c'est très simple, c'est superficiel. Donc alors ça c'est l'esprit de la Torah, là on voit que quelqu'un qui étudie seul, même s'il est très très intelligent, mais si il n'a pas une opposition vers lui, alors à ce moment-là, il n'a pas quelqu'un qui oppose à lui, alors il n'arrive pas à développer bien ses pensées. Tout d'abord, il peut se tromper et ne pas remarquer qu'il se trompe, parce qu'on est quand même humain. L'être humain, il se trompe facilement, sans remarquer. Mais donc c'est pour ça qu'on a besoin de quelqu'un qui nous corrige, d'une part, mais plus que ça. Grâce aux oppositions, on arrive à la profondeur de la chose. Alors ça, c'est vrai dans l'étude, mais ça, c'est vrai dans tous les domaines. Donc, comme on a dit tout à l'heure, parmi les règles de la Torah, c'est qu'il y a une opposition des pensées. La Torah nous dit une fois une chose, une autre fois elle nous dit le contraire. En fait, on a l'impression que c'est le contraire. Et ensuite, il y a un troisième verset qui nous arrange, ça veut dire qu'il nous montre qui nous règle les différences. Alors à ce moment-là, on a posé la question, alors pourquoi on a besoin de troisième règle que la Torah, depuis le début, nous dit exactement comment ça fonctionne. Pourquoi il faut avoir la pression que c'est d'une manière, ensuite d'une autre manière opposée, ensuite il y a quelque chose qui nous range entre les deux. Alors, le rabbi explique que c'est exactement cette idée. Grâce aux oppositions, alors le troisième, il ne vient pas pour dire qu'il a raison, l'autre a raison. Le troisième, il va montrer que finalement les deux, ils ont raison. Seulement que ça dépend de quelle manière on regarde. À ce moment-là, le regard est beaucoup plus large. J'espère que jusque là, c'est un petit peu clair. Alors à partir de là, on dit que, comme on a dit tout à l'heure, que notre monde est rempli de paradoxes. Et lorsqu'on parle de la paix, alors c'est vrai que parfois on n'a pas le choix. On est obligé de couper avec certaines manières. Mais la vraie paix, c'est pas que l'autre il pense comme moi. La vraie paix, c'est quand on arrive à faire un lien, on arrive à s'arranger malgré les différences, voir que finalement, on a tous les deux raison, quelque part. Et pourtant, il y a quelque chose que grâce à ces quelque chose, il y a un lien qui montre juste que cette idée est beaucoup plus large. Donc d'un côté, elle arrive jusqu'à une extrémité, et de l'autre côté, elle arrive jusqu'à une autre extrémité. Et c'est grâce à ces guides, grâce à ces lignes conductoires, d'autres choses qui fait que l'idée soit très large. Donc si, sans l'idée des milieux, sans l'idée principale, si on peut dire, sans l'idée qui lie, on a l'impression qu'il s'agit des extrémités qui sont opposées. Mais grâce à cette idée de milieu, ça nous élargit l'idée que cette idée est très large. Elle arrive à une extrémité et dans une autre extrémité, et pourtant, c'est une idée. Alors, jusqu'à là, c'est vrai qu'on a parlé un petit peu d'une façon floue, et sans exemple. Mais c'est comme ça qu'on voit le monde. Alors, dans notre paracha, il y a plusieurs éléments qui montrent un petit peu cette idée. Tout d'abord, on va commencer par la fin. Dans notre paracha, il y a deux parties. Il y a la partie Yitro, donc l'histoire des beaux-pères de Moshe, qui vient de Midian pour rencontrer le peuple d'Israël après qu'il a entendu tout ce qui s'est passé à la sortie de l'Égypte et tous ces miracles. Donc il vient, et ensuite il remarque comment Moshe fonctionne, qu'il juge le peuple seul. Et donc il fait une remarque à Moshe, il dit « ça va pas du tout, ça va pas marcher comme ça, toi tout seul, il faut déléguer. » Donc finalement Moshe il délègue, et son rôle devient beaucoup plus facile bien sûr. Bien, ça c'est la première partie, que peut-être on va revenir si on aura le temps. Et ensuite la deuxième partie de la Torah. Et d'ailleurs, c'est pas la deuxième partie de la Torah, et c'est pas forcément dans l'ordre, parce que la Torah, elle est pas toujours dans l'ordre des temps, mais c'est plutôt dans l'ordre logique. La Torah, elle règle des choses, parfois avant, parfois après, pour la logique de la Torah. D'ailleurs, comme dans le roman, parfois on écrit ce qui est avant, après, pour une certaine raison. Donc, c'est pas forcément dans l'ordre de la Torah. C'est une grande question parmi les sages de la Torah. À quel moment s'est passée l'histoire d'Yitro? Mais de toute façon, à la fin de notre paracha, que c'est possible que c'était avant, la Torah nous raconte les dons de la Torah. Mais il y a des précisions dans la Torah. Donc il y a les fameux 10 commandements, mais il y a quelque chose, une précision dans la Torah. La Torah nous précise que le don de la Torah était en troisième mois. Donc, si on regarde la Torah d'une façon, quand il y a des événements, des différents événements, c'est pas souvent que la Torah nous dit, nous donne la date. Il y a beaucoup de choses très importantes que la Torah nous donne pas la date. Alors parfois, la date n'est pas du tout mentionnée. Parfois, on n'a même pas, on n'a pas les moyens de savoir la date. C'est seulement la tradition ou bien d'autres choses qu'on sait la date. Mais parfois, la Torah nous dit d'une façon très claire. Alors, ici, on a quelque chose à moitié clair. Il est marqué comme ça. En troisième mois depuis la sortie de l'Égypte, 7 jours, ils sont venus vers le mont Sinaï. Alors, la Torah précise le mois, c'était au troisième mois, mais la Torah précise pas la date. 7 jours, ça veut dire quoi? Alors nos sages, ils apprennent que 7 jours, ça veut dire le jour de Rosh Chodesh, le jour de Moïse, le premier jour de Moïse. Il y a des règles qui nous poussent à ça. Et donc, mais c'est pas marqué très clair. Et il est marqué pourquoi c'est pas marqué clair. En tout cas, ce qui nous intéresse, que par contre, le Moïse, c'est marqué très clair. C'était au 12e mois. Et pourquoi, donc, c'est important? Alors, il est marqué que, justement, si on veut savoir quelque part l'identité de la Torah, qu'est-ce que la Torah nous fait dans le monde, entre autres, c'est la notion de 3. Ça veut dire la notion de 3, le chiffre 3 est lié avec la Torah, avec l'identité de la Torah. Ce n'est pas seulement un chiffre, forcément que c'était à ce moment, mais c'est bien là le sujet de la Torah, c'est bien là le but de la Torah, le chiffre 3. Alors, non seulement ça, le Talmud nous dit, il y a plusieurs notions de 3. Il est marqué comme ça que Dieu il a donné la Torah en troisième mois, mais par une troisième personne, donc la famille qui s'est Moshe. Et elle nous dit, la Torah, elle est divisée par 3 parties. Torah, Nevim, Tovim, ce que s'appelle la Torah, les prophètes. Et la Bible, on sait que la Bible, il y a 3 parties dans la Bible. Il y a la Torah, que c'est le 5 livres de Moïse, mais ensuite, il y a encore 2. Les prophètes et l'écrite. Donc, la Torah aussi, elle est de 3. Il y a une multitude de notions de 3. Donc, la Torah a été donnée en troisième mois par une troisième personne. La Torah de 3, au peuple de 3, qu'il y a 3 parties dans le peuple juif, Cohen, Lévi, Israël, etc., etc. Il y a ce qui rajoute encore plusieurs notions de 3. Ça veut dire que le chiffre 3 est nécessaire ici, même si que les autres chiffres aussi ils ont leur valeur, mais le chiffre 3 est nécessaire ici. C'est quoi le chiffre 3? Alors il est marqué que la Torah, elle est venue pour faire la paix dans le monde. C'est une phrase difficile, la Torah est venue pour faire la paix dans le monde. Est-ce que c'est une blague? Il y a certaines personnes qui vont dire que le contraire, la religion divise. Est-ce que la religion lit surtout la Torah, que quand on lit la Torah, on a l'impression que ce n'est pas le cas. Alors, effectivement, la Torah, elle est venue pour faire la paix dans le monde. Et pourtant, alors là où on voit qu'il y a des différences. La Torah, elle crée des différences. Déjà, la Torah, elle crée des différences entre les peuples juifs et les nations. La Torah nous dit que chacun a son rôle, et bien que chacun doit garder son rôle. À l'intérieur des peuples, il y a une différence entre telle tribu et telle tribu. Toi, tu es de telle tribu, donc tu fais ça. L'autre, il est de telle tribu, il va faire ça, il a un autre rôle. Et ensuite, à l'intérieur de nous, il y a la différence entre hommes et femmes. Et cette différence est bien claire dans la Torah. Donc, l'homme, c'est l'homme, et la femme, c'est la femme. On fait les différences, chacun son rôle. Et ensuite, il y a beaucoup de différences. La Torah, elle développe les différences. Les différences dans la famille, là, il ne rentre pas dans les affaires des autres, etc., etc., et dans d'autres domaines que, malheureusement, aujourd'hui, il y a certains qui ne comprennent pas cette valeur de la famille, qu'une famille elle se mêle pas avec une autre famille, je veux dire, quelque part, dans certains domaines que c'est très clair, mais pas c'est très, très clair. Donc il y a des différences dans l'esprit juif, et pourtant on dit que la Torah elle est venue pour faire la paix dans le monde, comment ça colle. Et si on étudie, on rentre dans la Torah elle-même, que dans les discussions de la Torah, on étudie les Talmuds, et ce qui vient après les Talmuds, on voit beaucoup de différences. Beaucoup de, je ne vais pas l'appeler disputes, mais il arrive parfois aussi, on n'est pas d'accord, mais ça monte très très haut. Alors, à ce moment-là, ça pose un problème. Est-ce que la Torah, elle est là pour faire la paix dans le monde? Vous allez demander à chacun, il va dire oui, non. Mais c'est vrai que la Torah, elle crée des différences. Alors, c'est ça l'idée. C'est vrai que la Torah, elle fait les différences, mais le but, justement, que lorsque les différences sont bien claires, à ce moment-là, on arrive à créer le dynamisme et l'union. C'est l'exemple que j'aime, il y a beaucoup d'autres exemples, mais l'exemple que j'aime, comme dans l'électricité, si vous voulez avoir d'électricité, vous utilisez les positifs et les négatifs, parfois c'est par le fil rouge et parfois le fil noir et rouge. Et les différences, il faut bien différencier entre les deux, à ce moment-là, vous créez un dynamisme en commun. Et si vous allez, si malheureusement parfois il arrive que les deux fils se touchent. Alors, normalement, dans notre système aujourd'hui d'électricité, alors, le courant saute. Alors, à ce moment-là, il n'y a pas de problème, c'est juste que le courant saute. Mais parfois, il arrive que, carrément, il y a des incendies qui peuvent amener aux choses graves. Ça veut dire que, dans certains domaines, on comprend bien qu'il faut faire une différence entre une chose et l'autre. Alors, ça aussi, c'est la vision de la Torah, qu'on est différent. Et la Torah, elle fait, elle développe les différences. On est très différents. Et non seulement qu'on est très différents, des groupes qui sont différents, chacun est différent que l'autre. À tel point qu'on dit que, de même que les visages ne sont pas pareils, les opinions ne sont pas pareilles. Ou bien le contraire, oui. Ça veut dire qu'il n'y a pas deux personnes avec le même visage. Il n'y a pas deux personnes qui ont le même ADN. Et pourtant, les différences en ADN, tout petit, on n'a pas les moyens de voir visiblement, et pourtant on reconnaît aujourd'hui une personne grâce à ses ADN. On peut reconnaître, on peut savoir qui était son père, qui était sa mère, ou bien beaucoup d'autres choses grâce à ça, parce qu'on est très 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 différent. Il n'y a pas deux personnes qui ont le même visage, il n'y a pas deux personnes qui ont le même ADN, et il n'y a pas deux personnes qui pensent pareil. Et s'il y a deux personnes qui pensent pareil, c'est parce qu'ils ne pensent pas, tout simplement. Mais on voit que lorsqu'on pense, alors automatiquement, on ne pense pas pareil. C'est naturel, et plus que ça. Les mêmes personnes, s'il va continuer, c'est un homme qui réfléchit beaucoup, alors demain, il va penser différemment de ce qu'il pense aujourd'hui. Parce qu'on est très différents. Avec le temps, on devient encore différent. Et c'est ça le but. L'idée, c'est que malgré les différences, on trouve quelque chose qui lie, qui fait une union dans ce monde. Alors, à partir de là, on peut comprendre que le chiffre 3, c'est justement, dans la Torah, le chiffre 1, c'est le chiffre d'unité. On ne voit pas encore de différence. Le chiffre 2 représente la notion de différence. Alors, à ce moment-là, les différences, parfois, c'est douloureux. C'est pour ça, d'ailleurs, que le deuxième jour de la création, c'est le lundi, qui correspond au deuxième jour de la création, c'est un jour qui n'est pas trop magnifique pour certaines choses. On dit que les différences ont été créées. Dieu il a séparé entre les hauts et les bas, ce que doit être l'idée, l'explication de cette idée. Mais en tout cas, on trouve le deuxième jour la notion de différence. Et le troisième jour est lié avec l'union après les différences. C'est pour ça que le troisième jour, il y a une création de la mer, ensuite, ça veut dire qu'il y a une partie terre et une partie mer. Il y a un sujet qu'il faut développer. Mais en tout cas, le troisième jour, c'est l'union après les différences. Alors finalement, parfois, lorsque on fait les différences, c'est pour finalement après arriver à une union qui arrange. C'est comme si on va dire on a un problème. Et il y a un problème qu'on cache. on ne s'occupe pas de ces problèmes. Il y a des, comment on dit, des saletés qu'on balaye sous un tapis, on ne le voit pas, mais le problème, elle est là. Pour arranger un problème, c'est justement lorsqu'on révèle le problème et on l'arrange. Quelque part aussi, ce n'est pas la même chose exactement, mais quelque part, c'est la même idée, que d'une part, on est différent, et il faut bien développer la différence. Quand on a bien développé la différence, finalement, on trouve l'idée qui lie les deux en même temps. À ce moment-là, le troisième, c'est un chiffre qui est celui qui colle les morceaux quelque part. Alors, à partir de là, on peut voir aussi, on a parlé du début de la paracha, donc la Torah était donnée dans cette paracha, mais le début de la paracha nous parle de, comme on a dit tout à l'heure, Yitro, le beau-père de Moshe, il vient voir la Torah, il est émerveillé, c'était pas quelqu'un de la communauté juive, et pourtant, il était un grand homme, un grand scientifique de l'époque, il était idolâtre. Et à l'époque, c'était lié, aujourd'hui, on ne comprend pas la logique idolâtrie, mais à l'époque, tout était lié, mais peut-être ce n'est pas le moment, donc il était un grand scientifique. Et donc, c'est pour ça qu'il arrivait à cette conclusion que la seule divinité, c'est Dieu. Mais donc, alors il vient pour voir, il vient même pour se convertir, il convertit ensuite sa famille, mais il fait une remarque à Moshe. Il voit que Moshe, c'est celui qui sait tout, donc il y a des problèmes dans la communauté. Et les gens, ils sont là depuis le matin jusqu'au soir pour lui demander comment faire, quoi faire, comment faire entre les différences, entre les désaccords. Et lui, il répond à chacun. Et Yitro, il observe et il dit, mais ça va pas aller. Ni toi, ni ton peuple, on peut supporter comme ça, que tout le monde sont là en ligne pour attendre Moshe. Etc. D'autres idées autour de ça dans ses arguments. Et finalement, il donne à Moshe des délégués. Donc, il y a d'autres personnes sages, pas comme Moshe, mais d'autres personnes sages. Donc, ils délèguent. Ici, il y a une question facile, on demande à ces gens. S'il y a des questions difficiles, on monte des niveaux. Et si personne n'est au courant, personne ne peut répondre, à ce moment-là, on arrive à Moshe. Donc, à ce moment-là, ça va quelque part laisser des temps libres à Moshe, mais ça va aussi faire que la vie soit plus digne et facile. Bien, alors il a donné un conseil qu'aujourd'hui tout le monde utilise ce conseil. Tout le monde sait qu'un patron qui veut tout faire, ça marche pas. Il faut savoir déléguer. Il faut garder quand même, mais il faut déléguer. Et la question qui se pose, comment Moshe, il n'a pas imaginé cette chose. Alors juste le poids de cette idée, une fois le rabbi de Lubavitch a expliqué comme ça, que il faut voir le rapport entre les deux choses. Que Moshe, qu'il était... On peut dire peut-être comme ça, qu'on est dans une classe. Alors, un bon maître, il veut donner le maximum aux élèves. Donc, il ne veut pas leur donner ce qui est à leur niveau, il veut les amener au plus haut possible. Mais d'une autre part, il faut être réaliste, qu'il y a des élèves qui ne sont pas capables de tout comprendre. Donc, il faut descendre à leur niveau. Un maître qui voit... qui c'est très bien de voir le potentiel de chaque élève, voir l'Einstein qui se trouve dans chaque élève, c'est le maître idéal. Mais grâce à ça, il peut vraiment développer les qualités de chacun. Mais d'une autre part, le problème de ce système, c'est que à cause de ça, parfois il rate quelque chose. Il y a un enfant qui n'est pas prêt. Peut-être il a le potentiel, mais il n'est pas prêt parce que pratiquement parlant, on sait qu'il y a beaucoup de choses qui font que ça marche pas. Donc alors cet élève, il va tomber très très grave parce que quand il n'arrive pas, même si qu'il a la capacité d'être Einstein, mais il faut aussi être d'accord. Parfois il faut accepter qu'on n'est pas Einstein en fait, ou bien qu'on n'arrive pas à développer la capacité. Alors c'est un paradoxe. D'une part, on veut bien être, et c'est ça le but des parents, de pousser leurs enfants au maximum. Mais d'une autre part, il faut aussi être au courant que peut-être mon enfant, il ne peut pas y arriver à ce niveau, et même il va rester à un petit niveau, à ce moment-là, les parents, ils doivent le pousser à être dans un bas niveau et l'encourager. Mais c'est un problème. Si je vois dans mon enfant ses capacités énormes, j'ai du mal à accepter qu'il va pas le développer. Mais parfois, je suis obligé de le faire comme ça, parce que sinon, alors il va pas développer ni l'un ni l'autre. Il va rentrer dans la tristesse, il va rentrer dans la dépression et même dans la violence. Souvent, quelqu'un qui se porte mal parce qu'il a pas trouvé son chemin. Et parce que ses parents, ils ont vu très haut et ils se sont pas trompés de voir très haut. Mais ils se sont trompés là où ils n'ont pas compris que peut-être leur fils, il n'est pas au niveau. Alors, c'est comme ça qu'on peut dire par rapport à Yitro. Moshe, il voulait pousser, il voulait donner lui le renseignement et l'enseignement pour pousser chacun au bout, au niveau le plus haut. Mais Yitro, qui était plutôt un homme du monde, il a vu que non, ça, pas tout le monde sont capables. Et s'il va pousser tout le monde très haut, finalement, ça va pas marcher et il y aura le contraire, une catastrophe. Alors finalement, ce qui marche bien, c'est voir avoir les deux côtés. Un côté de Moshe qui pousse le plus haut, un autre côté de Yitro, comme dit mon ami qui dit comme ça que l'optimiste, ils ont créé l'avion, les pessimistes, ils ont créé le parachute, on a besoin des deux. On est dans un monde où il faut avoir les deux. En tout cas, on a fait un petit peu de tour dans cette paracha. Les paradoxes, mais on vit dans un monde paradoxal. Il faut trouver les lignes qui lient entre les deux. Dans notre Torah qui a été donnée, dans notre paracha, on parle surtout de la Torah, mais on parle aussi d'autres sujets. On trouve cette idée. Les paradoxes, et pourtant, quand on trouve de l'équilibre dans les paradoxes, c'est ça le but. Et c'est ça, finalement, le monde messianique où on va enfin trouver le vrai paradoxe, liens dans les paradoxes. Ça veut dire que les paradoxes, ils vont pas être annulés, mais on va trouver l'équilibre. Et c'est pour ça que ce monde va être un monde de paix. Merci pour votre écoute. Merci pour votre écoute et à la semaine prochaine.
Fêtes et culture juive avec Raïm Slonim sur le 97.1.